Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, je vois pas tant l'hyperpote. Super, Louise.
Hyperpote.
Salut, c'est Louise Petrouchka.
Et salut, c'est Clément.
Et vous écoutez le son d'après. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 45 du son d'après. Je suis Louise et je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément, bonjour.
Salut, c'est moi.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Oui, ça va très bien. Es-tu en forme pour ce nouvel épisode?
Mais toujours, je suis très content.
As-tu ramené le caviar de la musique pour nos auditeurs et auditrices?
Écoute, j'espère. C'est l'ambition à chaque fois qu'on renouvelle, tu vois, c'est semaine vrai. Après semaine. En tout cas, je suis content, c'est bien. Il y a de la découverte, même, tu vois, pour moi.
Même pour toi.
Et pour moi. Ou en tout cas, ou quand tu te retrouves du coup à creuser un artiste, et ben voilà, il y a un peu de ça dans ce que je ramène aujourd'hui.
Très bien.
Sans teaser.
Eh bien moi, il y a une personne que j'aime énormément de tout mon cœur et une autre personne que je viens de découvrir et que j'aime énormément de tout mon cœur. Donc ça
déjà.
Tombe bien, voilà. Je vous propose, vous avez l'habitude, 4 artistes, 4 nouveaux morceaux, qu'on commence cet épisode 45 avec Clément qui nous ramène...
Un rappeur pour changer,
oh là là.
Un rappeur. Non mais semaine après semaine, je vais vous faire un peu toute une ribambelle, mais j'essaye. En fait, l'idée est quand même d'essayer de varier les styles, quand même, de
ouais,
montrer
de
à
rap.
Quel point le rap est un art maintenant multiple, tu vois, vraiment où les genres musicaux s'entrechoquent.
Tu sais que dans le dernier épisode, t'as dit une fois n'est pas coutume, et j'étais là, vraiment, c'est une coutume en fait de ramener du rap.
C'est vrai, tu sais, c'est ce genre d'expression que tu utilises vraiment pour faire genre, j'utilise une expression, mais
en fait,
c'est pas bien employé du
pas
tout.
Bien utilisé.
Non, mais du coup, comme le veut la coutume, j'arrive avec mon rappeur de l'épisode. Il se trouve là que c'est un rappeur parisien de 22 ans qui s'appelle Winter Zuko. C'est un rappeur masqué. Il est encore assez confidentiel et je dis ça, ça risque de plus l'être trop parce que le règlement vient de sortir une vidéo où il parle de lui. Et déjà, je crois que tu vois la différence de résultats sur les plateformes entre avant et après en termes d'écoute, le règlement apporte une certaine visibilité.
Fait son effet. Pour
Exactement.
Les gens qui connaissent pas le règlement, c'est une chaîne YouTube qui parle de rap.
Voilà, essentiellement, et qui le fait très bien. Mais avant de vous parler de la musique, déjà, en fait, comme je vous disais, c'est un rappeur masqué. Pour l'instant, on sait pas encore grand chose de lui. C'est-à-dire qu'il y a pas grand chose, tu vois, niveau article, soit bon, où il y a quelques analyses un peu qui traînent, mais tu sens que c'est pas très bien écrit. Tu sens que c'est à mon avis fait par des vrais fans,
okay.
Mais bon, voilà, ça manque un petit peu de consistance quand on veut vraiment savoir plus sur le bonhomme. Du coup, le peu qu'on sait sur lui, on l'apprend principalement dans ses textes, puisqu'il se confie pas mal, en fait, dans sa musique. A priori, il serait pas né en France, il aurait fui un pays en guerre avec sa mère, probablement l'Europe de l'Est, et il vit désormais, du coup, sur Paris, en HLM. Vous verrez, dans les paroles, on sent quand même un vécu assez deep. Donc, il commence à poster ses premiers sons, je crois, en 2018 sur SoundCloud. Au départ, c'est des sons assez classiques, c'est-à-dire que plutôt orientés trap, globalement. Mmh. Et depuis un an, il a un petit peu changé de couleur musicale, quelque chose de beaucoup plus électro et d'hyper pop, en fait. Et c'est cette couleur hyper pop qui m'a capté direct quand j'ai écouté le projet. Donc, je vous propose qu'on écoute sans plus tarder le morceau hashtag Free Britney, extrait de son EP en commun avec le producteur Skuna. Le projet s'appelle Deep Star. On revient ensuite parler de Winter Zuko.
Demain je taffe mais je dors, hop, y'a une soirée mais je suis pas sortable. Avec la misère je suis assorti, c'est au Lidl que j'achète mes torsades. Démarre la prod, je suis un morphale, je connais la galère comme Orsay. J'suis dans la demeure, c'est grave dead, quand je suis au sommet je vous casse dead. J'étais tout seul, tu m'as fait une passe D, je mets la tessie comme un max D. Et je suis pas sûr que je sois vraiment love, parce qu'avec de l'amour on peut m'acheter. Hein, dis-moi si c'est fini que je rage quitte. Et pourquoi zinc, y'a rien à graille, quand j'arrive dans la pièce je vois que tu mâches vite. C'est pas carré tant que je vois ce HLM par ma fenêtre. J'suis pas yam comme si j'avais une maladie dans ma tête. Faut ça pop un coup, faut pas qu'on se dise peut-être.
Parce que j'ai qu'une daronne, mais un coucher qu'elle a pas qu'une tête. Toutes ces années gâchées dans la trappe. Je démarre la prod et tu manges du crack. Nous on sort des égouts, c'est pas des lol. On sort du calico, c'est pas des blagues. Je te vois pas réussir comme un schlag. Yaskuna et Zuko sur le flag. La scène est l'ennemi, mais je vais tomber love. C'est MK et sur le frag. Toutes ces années gâchées dans la trappe. Je démarre la prod et tu manges du crack. Nous on sort des égouts, c'est pas des lol. On sort du calico, c'est pas des blagues. Je te vois pas réussir comme un schlag. Yaskuna et Zuko sur le flag. La scène est l'ennemi, mais je vais tomber love. C'est MK et sur le frag. On a grandi dans le dirt. Et y'a qu'avec le danger qu'on fleure. Et notre futur, j'ai qu'il est pas rose. Mais je vais quand même t'envoyer des fleurs. On reconnaît l'issue juste à l'odeur. Je connais la défaite et la peur. Qui se rappelle quand j'étais vraiment seul et qu'il y avait plus aucune place dans mon cœur.
C'était Winter Zuko avec hashtag Free Britney. Qu'est-ce que t'en as pensé, Louise?
Écoute, c'était ouais. Super.
Ouais, ça t'a plu?
Oui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la prod.
Ouais, hein.
Super. Bravo, bravo la prod. Bravo les Beats Quick.
Ouais, ça c'est.
Oui, oui, oui. Je le fais très mal. Mais vous l'avez entendu. Et j'aime bien ouais, sa manière de poser, j'aime bien le refrain, il est cool, le refrain il rentre un peu dans la tête.
Ouais ouais, je trouve ça assez catchy en fait. Déjà comme je vous disais, je trouve que les paroles sont assez sombres, donc tu vois ça parle clairement un peu de la pauvreté qu'il a connue, il parle des courses au Lidl, il parle de la vie en HLM, il dit qu'il vient des égouts, tu vois, il parle de crack, enfin le fait qu'il ait vécu aussi à l'hôtel, en foyer, tu sens une certaine rage du coup qu'il habite, voire une certaine folie, et tu le ressens aussi bien je trouve du coup dans les paroles que parfois dans l'interprétation. J'aime bien cette voix assez imposante qu'il a, en fait, tu vois, tu sens qu'il rappe bien, qui c'est un peu un rappeur un peu tout terrain.
Ouais.
Ça, il suffit d'écouter aussi un petit peu les autres morceaux sur ses autres projets, vraiment, voilà, c'est un rappeur qui est à l'aise là-dessus.
C'est intéressant ce qu'il dit, c'est dans le refrain qu'il dit ça, genre, toutes ces années est perdue, gâchée dans la
trappe. Ouais, je pense que, tu vois, bon, à mon avis, il parle certainement, à mon avis, de toutes les années où il rappait sur d'autres types de prod, quoi. Mais tu sens qu'il y a en fait l'utilisation de tout un champ lexical autour, justement, je trouve, qui cherche à te décrire en tout cas la pauvreté et des trucs un peu sombres, quoi. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que du coup, paradoxalement, c'est sur une prod plutôt dansante et que je trouve ça assez terriblement efficace, quoi. Tout simplement, la prod t'en parlait, ce petit riff de guitare là qui vient titiller, je trouve, moi, mes jeunes années où j'écoutais vraiment plus du teenage rock, tu vois. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a tu vois une évolution. C'est une sorte de montée en pression là qui s'effectue quand même sur les deux couplets. Du coup voilà, le morceau devient plus en plus intense et je trouve que le flow suit aussi, ça c'est intéressant. Et voilà, et en fait plus on avance dans le morceau, plus on retrouve, je trouve, les codes de l'hyperpop. Donc les codes de l'hyperpop, en fait, hyperpop, c'est de ce que j'ai capté un petit peu quand on cherche à décrire ce mouvement là, c'est que c'est un peu les codes des années 2000 mais poussé au max, quoi.
OK.
Aussi bien dans le son que dans les références auxquelles tu fais. Donc là, tu vois, par exemple, il y a Britney, je pense on est un peu l'essence, tu vois, de ce truc là et moi j'aime bien, en fait je pense que forcément ça vient parler à un style que je connais, tu vois, enfin à des années que j'ai connues forcément d'un point de musique. Oui, je parlais du coup de style un peu musical, mais du coup il y a quelque chose de beaucoup plus électro, parfois même un peu eurodance. Je suis pas sûr que là on le ressent sur ce morceau là mais plus globalement je trouve que sur l'hyperpop ça vient quand même rechercher ces codes là en fait. Ce que j'aime bien, c'est que parfois j'ai l'impression qu'on frôle presque le mauvais goût. Tu vois, par exemple, le Beats Quick, je trouve qu'il y a de ça. Il y a quelque chose que je trouve un peu presque grossier, un peu too much. Et en même temps...
Qu'est-ce que too much, je veux dire, le bruit ou la
manière de... Ouais, tu sais, la manière de... Bah, en fait, ce bruit-là, il y a un côté un peu... presque un peu gag, en fait. Moi, je pourrais presque voir ça comme une sorte de décalage. Okay. Sauf que là, effectivement, c'est utilisé d'une manière rythmique qui est plutôt intéressante et que je trouve plutôt assez kiffante, finalement. Enfin, mais qui peut me faire sourire, en fait. Et c'est en ça que je trouve, du coup, que c'est une musique hyper généreuse. Tu vois, voilà, on pousse les potards à fond sur le, tu vois, certains codes.
Moi, je trouve qu'il y a quand même un côté émo, tu vois, tu parlais de teenage rock tout à l'heure.
Exactement.
Moi, j'entends surtout ça, en fait, j'entends un truc un peu émotion et du coup qui va bien avec ce qu'il raconte, en fait.
Je suis tout à fait d'accord. Bah, je voulais, tu vois, justement, je le notais, c'est que vraiment... Ce que j'aime bien en plus paradoxalement là, avec Winter Zuko, c'est qu'il développe dans ses visuels, dans sa musique, il y a quelque chose, tu vois, avec le masque, les visuels, l'utilisation du coup des références qu'il peut faire aux jeux vidéo ou tout simplement à la culture internet. Il y a un aspect à la fois très technologique qui se dégage de la musique et en même temps, il y a justement, tu l'évoquais, dans les paroles et dans certaines références musicales, tu vois, quelque chose de très émo. J'aime bien un peu ce paradoxe, tu vois, qu'il y a entre les deux et tout simplement l'univers que ça crée. D'une certaine manière, quand j'écoute Winter Zuko, ça me fait penser un petit peu à l'effet qu'a pu me faire Kekra à une certaine époque quand il est arrivé, c'est-à-dire une proposition qui est quand même assez nouvelle, bon, bien qu'il soit pas le seul bien sûr à faire ce type de musique, tu vois, mais qu'il y a quand même d'assez récent. Et en vrai, moi, quand j'écoute de l'hyperpop et quand j'écoute un peu ce genre de proposition, tu sais, j'ai vraiment l'impression d'entendre la musique du futur, en fait.
Moi, je vois pas tant l'hyperpop là-dedans. Non.
C'est peut-être pas le morceau le plus représentatif.
Ouais,
je vais.
C'est
pas impossible. Il y a des morceaux qui sont clairement plus. Qui a une signature beaucoup plus eurodance par exemple et, que, oui. et qui peut-être se rapprochait de ce qu'on a pu ramener jusqu'à présent. En tout cas, j'ai l'impression quand même qu'il commence à faire partie vraiment de cette famille-là, tu vois.
Oui, mais je vois, en fait, pour moi, ça rejoint un peu Baby Solo et.
Ah bah tout à fait.
Et notre ami, j'ai oublié son nom, Roseboy666.
Il a d'ailleurs fait une collaboration avec Roseboy666, le morceau s'appelle Sans Pompe. Tu vois, je pense qu'en tout cas, les connexions sont déjà là a priori et je suis pas étonné parce que je pense vraiment qu'il cherche à créer une esthétique un peu similaire.
Oui, c'est clair. Moi, je pense, je vois pas tant les années 2000, mais je vois les gens qui ont grandi sur Internet, en fait, dans la musique. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que c'est certainement un peu lié, parce que finalement, c'est un peu la même génération, tu vois. Peut-être que...
Mais je veux dire, dans les années 2000, il s'est passé... Enfin, tu vois, genre, il n'y a pas eu que eu... je sais pas comment dire. Musicalement, il n'y a pas eu que ça, quoi.
T'as raison de parler, je pense, de génération Internet, parce que ça donne une musique, je pense, justement, qui peut avoir plusieurs visages. C'est-à-dire que c'est pas qu'un type de son exactement, ouais. Tu vois, avec, tiens, je vais utiliser tel type de caisse claire, tiens, je vais utiliser tel type de rythmique. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui incorpore, finalement, beaucoup plus
oui, c'est ça, c'est
d'autres
que
musiques.
Ça change forcément des années 90, où, à l'époque, les mecs, ils avaient une seule boîte à rythme, et ils utilisaient cette boîte à rythme pour tout faire, tu vois.
Exactement.
Genre, à partir du moment où t'as Emule et que tu commences à télécharger tous les trucs possibles et imaginables, en effet, tu commences à faire vraiment ce que tu veux, quoi.
Je pense que parce que c'est aussi cette culture un peu
c'est
internet.
Si t'es Emule, je suis désolée.
Bah, si, en vrai, on a tous connu, en tout cas, moi. On a
connu. Oui, nous, on a connu parce qu'on a 30 ans, mais les gens qui en ont 20, je suis pas sûr.
Peut-être. Mais néanmoins, en tout cas, je trouve que tu vois, ça rejoint cette idée de culture internet et du coup, qui vient. Tu vois,
absorber
tout en fait, tout, et en vrai, on peut faire des grands mashups de musique presque globale. J'aime pas forcément ce terme là parce que ça veut tout et rien dire, mais tu sens cette. On se donne pas trop de limites et du coup, voilà, on va citer telle référence. Alors parfois, enfin, tu vois, quand j'entends Victor Zouko, il y a des références internet, jeux vidéo, etc. que je capte pas.
Ouais.
Mais il y a un truc dans la mentale, dans la détermination et dans le côté peut-être justement un peu émo, moi, qui clairement vient me toucher malgré tout, quoi.
Mm-hmm.
Donc, pour prolonger l'écoute, je vous propose d'écouter du coup son EP Deep Star avec le producteur Skuna. Vraiment, moi, j'ai trouvé le EP très cool. Dans le genre aussi, je vous conseille aussi son premier EP qu'il avait sorti quelques mois plus tôt, qui s'appelle 2036. Où vraiment, là, il y a peut-être une signature un tout petit peu plus électro-eurodance ou quoi.
Okay.
Mais du coup, voilà, je pense qu'il est peut-être encore plus hyper-pop et que moi, j'ai vraiment kiffé.
Et c'est le même producteur ou pas ?
Non, là, je crois que sur 2036, à vérifier, mais en tout cas, c'est pas coproduit
c'est
avec
pas
un seul...
voilà,
il est pas co-réalisé avec un producteur. Et du coup, la troisième recommandation, bah, si vous avez envie de creuser un tout petit peu plus, parce que là, vraiment, je vous fais quelque chose d'assez simple et efficace sur Winter Zuko, mais si vous avez envie de creuser un petit peu l'artiste et peut-être un peu plus globalement, du coup, sur sa musique, je vous conseille évidemment l'épisode... du règlement, toujours très bien, voilà, donc
bien sûr.
Vous aurez plus d'infos là-dessus, voilà,
okay.
C'est tout pour Winter Zuko, on passe au son d'après.
Et bien, après avoir parlé des producteurs de Internet, on va parler des producteurs qui ont commencé avec la PlayStation 2 et Musique 2000.
Pas mal. Ah bah franchement, à mon avis, ils doivent
dans
se capter.
Ils sont dans les mêmes...
Ah bah on est dans des années, dans les années similaires.
Exactement. On est sur une personne de 35 ans, écoutez, à l'heure où on enregistre. C'est une de mes personnes préférées, enfin une de mes personnes, un de mes artistes préférés en tout cas. Sa musique me plaît énormément. Et après 45 épisodes, je pense qu'il était temps que je le ramène. À la base, je voulais parler de reggaeton et en fait finalement je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit pas de côté. Aujourd'hui, on va parler d'amitié, de vie sur Mars et de 20 000 lieues sous les mers. Les gens qui me connaissent un peu n'auront aucune surprise. On va parler de Flavien Berger.
Oui,
oui. C'est une chronique un peu sentimentale, car cet artiste me remémore beaucoup de jolies choses et sa musique marque une amitié très forte dans ma vie. Et c'est pas la première fois qu'on l'évoque ici. Notre amie commune, Kim,
tout à fait.
Sans qui ce podcast n'existerait probablement pas, c'est elle qui me fait découvrir Flavien Berger.
Bisous Kim.
Oui, bisous Kim. On rétropédale jusqu'en 2015. À l'époque, on est toutes les deux bénévoles pour une radio associative nantaise dont j'ai déjà parlé mille fois, Prune. Et on fait la matinale ensemble une fois par semaine. Et un matin, elle ramène un morceau de Flavien Berger. Il s'appelle La Fête Noire. Et c'est probablement un morceau qui a fait découvrir Flavien Berger à plein de gens à ce moment-là. Et je me souviens rester complètement hermétique à cette musique. Voilà. Comme souvent dans ma vie, je ne comprenais pas. J'étais perplexe. Le temps a passé et Kim n'a pas lâché l'affaire. Et je ne saurais pas vous dire ni quand ni comment. mon opinion a changé de « je ne comprends pas » à « j'adore vraiment intensément ce que fait cette personne ». C'est très bizarre, parfois le cerveau, on ne peut pas comprendre ce qui se passe.
Le coup de foudre à rebours, quoi.
Mais exactement ça. Et cette année-là, il sort un premier album qui s'appelle « Léviathan » sur le label indépendant Pan-European Recordings. C'est un album entièrement construit autour de la mer, des océans, des profondeurs, autant musicalement que dans les paroles. Un album concept, en somme, et vous savez qu'ici, on est friand d'albums conceptuels. Je me suis donc pris une petite claque, hop, derrière la nuque, à ce moment-là, et pour moi, Flavien Berger, c'est un peu l'équivalent d'un artiste plasticien, mais en musicien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec sa musique, il fait de l'art contemporain.
Ouais, c'est vrai qu'il
parfois,
a une approche
voilà,
assez artie, ouais.
Parfois, tu comprends pas au premier abord, ou au 34e abord d'ailleurs, parfois ça ne te touche pas, mais quand ça te touche, c'est vraiment au plus profond de ta poitrine qu'il se passe un petit truc magique. Et je vous propose qu'on écoute un morceau avant que je continue ma tirade. C'était bien sûr très difficile de choisir, comme toujours, mais comme c'est le printemps que le soleil refait son apparition et qu'on profite de chaque moment pour remettre le nez dehors, je me suis dit qu'on allait écouter un titre apaisant pour chaque matin de printemps. Le titre, c'est Pamplemousse, il est romantique et tout doux, et c'est certainement un de mes morceaux préférés de son album Contretemps, sorti en 2018. Je vous laisse en profiter.
Qu'on allait s'entrechoquer, je ne chantais que des onomatopées pour faire américain, mais tu te moquais. Je me souviens, je me souviens.
Pamplemousse de Flavien Berger, est-ce qu'on n'est pas détendu du slip?
Je sais pas si c'est du slip exactement, mais en tout cas, je suis bien. Je suis vraiment. Ouais, c'est tout doux. C'est vraiment un super morceau. Très, très bon choix. Ouais.
Ce morceau me donne envie de faire toute une playlist petit déjeuner au soleil.
Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est vrai que de toute manière, je crois que c'est totalement le. Parce que t'as envie d'écouter que ça,
oui,
à ce moment-là, avec un rayon de soleil et tout.
Clairement.
Ouais. Je suis totalement amoureux de ce track.
Bon, écoute, Léman, je sais que tu connais Flavien Berger, hein, puisqu'on l'a vu ensemble à l'Olympia.
Tout à fait,
c'est quoi
vrai.
Ton rapport à sa musique? Est-ce que toi tu as aimé dès la première écoute?
Je saurais pas te dire exactement. Je pense que je le découvre pareil grâce à un peu la bande en commun, justement. C'était peut-être Kim, c'était peut-être aussi les gens un peu dans l'entourage. Je passe un bonjour à Baptiste, à Roberto et tout ça. Je le découvre aussi sur l'album Léviathan. C'était peut-être La Fête Noire, c'était peut-être un autre morceau. Je t'avoue que je le maîtrise moins bien en fait, Léviathan. C'est vraiment. Il a mis une gifle à tout le monde là-dessus. Moi, c'est à ce moment-là des très bons sons de soirée, tu vois.
Okay.
Mais que où je pense que je ne digue pas plus à l'époque. Je me le prends par contre vraiment, où là je l'ai énormément écouté aussi tout seul et tout. C'est sur l'album Contretemps,
ouais,
qui a peut-être une couleur quand même beaucoup plus pop. Et c'est vrai que cet album il est magnifique. Et du coup, non, c'est un artiste que je respecte beaucoup parce que je trouve que tu sais, il fait de la musique différente. Là, c'est intéressant aussi parce que. Du coup, ce morceau-là, je l'ai écouté 200 fois, tu vois, mais je crois que je ne m'étais jamais non plus posé sur.
Ouais.
Tiens, j'essaie d'être attentif un peu à tous les détails, tu vois, comme quand on fait un peu nos premières écoutes ici. Et du coup, là, en écoutant, je me dis, c'est pas étonnant, en fait, que ça. Peut-être que ça marque, parce que j'ai l'impression que, déjà, juste dans l'utilisation de certains instruments, c'est original, en fait, tu sais, le piano, enfin, je sais pas, il y a plusieurs types, à mon avis, de tout merde, d'instruments et de piano, même, tu vois, mais là, je sais pas, il y a un truc qui sonne un peu distordu, presque radiophonique, tu vois. En fait, tout simplement, rien que déjà ces sons-là, eh ben, tu les entends pas à droite à gauche.
Oui, ça sonne très Flavien Berger.
Exactement. C'est, il a sa vraie patte, quoi. Et ouais. Ça, déjà, je trouve, de ce point de vue-là, c'est assez remarquable. Mmh. Tu vois, il y a l'utilisation aussi des bruitages. Enfin, il y a vraiment une patte Flavien Berger qui fait qu'il sonne pas comme un autre. Et du coup, c'est assez agréable, en fait, d'avoir ce type d'artiste qui, justement, t'emmène avec lui dans son univers et voilà, qui est assez unique.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi.
Voilà, c'était mon analyse. C'était mon analyse.
Je peux que valider.
Ouais. Bon, c'est ça, non, j'adore, tout simplement.
Alors, je vais faire une petite présentation de Flavien Berger avant d'enchaîner sur pourquoi ce morceau, pourquoi cet album, pourquoi Flavien Berger de manière générale. C'est un artiste français qui compose et interprète, le saviez-vous ? Et son univers est un peu hybride, en effet, entre un espèce de truc de chanson française, pop, musique électronique et même parfois un peu psychédélique. Je dis que c'est un artiste plasticien et c'est pas si faux que ça parce qu'il a fait des études d'art et qu'il fait partie d'un collectif artistique qui s'appelle le collectif SIN qui expérimente vachement autour de la vidéo, du son, de l'informatique et ils font pas mal de performances et d'installations, de réalisations, bref. Des artistes au sens large, voilà. Et Flavien Berger, en tant que musicien, il a 2 albums, 3 EP et 3 projets que j'ai qualifiés de hybrides à défaut d'un meilleur mot à son actif. Et donc, anecdote Mims que je citais tout à l'heure, il a commencé la production musicale en jouant à Musique 2000 sur PlayStation 2, voilà, quand il était au collège.
Et, ah, ça, c'est ouf, ça. Après.
Et j'ai appris dans une interview qui date un peu, donc peut-être que ce n'est plus que ça a changé depuis, mais en tout cas, à l'époque, il racontait qu'il n'avait jamais appris le solfège et que quand il composait comme à l'époque sur Musique 2000 en petits blocs. Donc, je vous invite à faire une recherche Google Images pour voir Musique 2000, puisque moi, je n'avais jamais vu. Et donc, c'est vraiment, en fait, Ableton, mais vraiment. Tout début, quoi. C'est vraiment un outil de production où il y a des petits blocs que tu peux ajouter, des petites cymbales et des petites mélos au piano et tout. Et il racontait que les sons de Musique 2000, c'était vraiment les meilleurs trucs à l'époque. Il adorait faire ça et qu'il avait déjà des albums prêts au collège. Voilà.
Ah ouais, d'accord.
Donc, personne vraiment impliquée dans la musique. Et donc, pour revenir à Pamplemousse, je crois que ce que j'aime dans ce morceau, c'est les paroles. Qui pourrait être un peu naïve, presque, je pense, mais c'est tellement joli. En fait, c'est un joli début d'histoire d'amour, en fait. Tu vois, le coup du détail qu'il avait jamais vu, de la photo de montagne sur la bouteille de jus de pamplemousse,
ouais, je trouve
ça
très bien.
Trop mignon.
Ouais, ouais, c'est vrai que c'est... Et puis en plus, c'est délivré avec une telle petite voix,
oui, c'est
mignonne, c'est machin.
C'est exactement ça. Donc il y a un peu ce côté un peu naïf... Je sais pas, de manière générale, Flavien Berger, il a ce côté bon enfant, tu vois. Genre, et c'est toujours un peu mime, et un peu chouette, notamment sur l'album Contretemps. Quand il parle notamment de la robe couleur petit déjeuner, c'est des paroles sur lesquelles tu t'arrêtes 2 secondes, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais qu'est-ce que quoi ? La couleur petit déjeuner, c'est quoi ? Et puis en fait, au fur et à mesure, ça devient un de mes moments préférés du morceau. Parce que je suis en mode, ah oui, bien sûr, la robe couleur petit déjeuner, quoi. On dirait un peu, tu sais, dans Peau d'âne, les robes couleur soleil et lune.
Alors, j'ai malheureusement, je n'ai pas vu Peau d'âne. C'est un peu, je suis désolé, je ne peux pas rebondir là-dessus.
Bah écoute, tu l'as pas vu et tu l'as pas lu non plus, du coup.
Non. Peut-être quand je m'étais petite et quand on te faisait, mais ouais, bref.
Bah, pour les gens qui n'ont pas la ref, dans Peau d'âne, c'est un inceste, son père veut se marier avec elle et pour ne pas se marier avec lui, elle lui demande de lui faire des robes impossibles à faire, notamment de couleur du ciel, de la lune et du soleil. Voilà.
C'est des images assez poétiques.
C'est très poétique. Et en même temps, un peu badant.
Un peu badant.
Voilà. Bref. En tout cas, voilà, ce genre de phrase, c'est ce qui fait que Flavien Berger fait du Flavien Berger, de toute manière. Tu vois, cette sensibilité dans l'écriture et dans les paroles. Je trouve qu'il y a un côté poésie du quotidien dans ses chansons. Et je pense que c'est bien démontré dans Contretemps, en fait. C'est ce que tu disais. Il y a ce côté plus pop et il y a un côté plus quotidien que dans Léviathan, qui était vraiment un album conceptuel autour de la mer, etc. Clair. Là, tu vois, dans le morceau qui suit Pamplemousse dans l'album, il s'appelle Deadline. Et ça parle d'être créatif et de pas réussir à faire des trucs sous contrainte et de la pression, en fait, d'avoir des choses à faire. Et en gros, les paroles, c'est « je suis pas bon pour les deadlines » et le morceau s'ouvre avec lui qui dit « je vais pas vous faire un album en 2 jours » et les cœurs qui lui répondent « mais si, mais si, mais si ». Je trouve ça trop marrant.
Tu sens qu'il s'amuse, je trouve, oui, quand même, sur pas mal sur pas mal de morceaux.
Il a cette manière de tourner, en fait, un peu tous les petits trucs de la vie en un morceau et en un album, et je trouve ça trop chouette. Et en même temps, mêlé à un peu de surréalisme, avec des phrases complètement farfelues, où tu te dis, il n'y a que lui pour écrire ça, quoi. Et un autre de mes titres préférés sur ce disque, c'est le morceau éponyme, en featuring avec Bonnie Banane, qui dure 14 minutes et qui était incroyable.
Ah, ça, c'est vrai que c'est magnifique.
Et c'est aussi ça que j'aime dans Flavien Berger, c'est qu'il y a toujours, sur les albums, au moins un titre de plus de 10 minutes. Et tu sens qu'il fait ce qu'il veut en fait. S'il a besoin de 15 minutes pour faire un titre, il va faire 15 minutes de musique. Et c'est pas superflu, tu vois. C'est qu'il y a une vraie progression, qu'il veut faire plusieurs passages dans le morceau, etc. Et que ça raconte une vraie histoire, quoi. Et c'est ça que j'aime avec lui. Et à mon avis, il y a un peu une part de magie inexplicable qui opère dans sa musique. C'est quelque chose qui se passe ou non, hein, voilà, au niveau des tripes de la poitrine et qui remue des petites choses en toi. Et en tout cas, chez moi, ça marche à merveille. Pour prolonger l'écoute. Je voudrais que vous alliez, s'il vous plaît, bon, écoutez l'album Contretemps parce que j'en ai parlé déjà pendant 5 minutes, mais les trois recommandations sont d'abord l'album Léviathan, qui est beaucoup plus électronique, comme disait Clément, avec beaucoup de synthé, et c'est donc un conceptuel autour des profondeurs de la mer, etc. Il y a des morceaux tout doux, comme Gravité ou Vendredi, et il y a d'autres morceaux plus énergiques et électroniques, comme Léviathan, le fameux morceau de 15 minutes, qui est vraiment très chouette en live, et le morceau 8-8-8-8-8-8-8-8, bon bref, 8 x 8 quoi, qui ouvre l'album et qui est vraiment très chouette. Ma deuxième recommandation, c'est l'EP Mars Balnéaire, qui est son deuxième EP sorti en 2014, dont le concept de station balnéaire sur Mars ne pourrait être plus actuel, car c'est probablement les idées très précises de Jeff Bezos et Elon Musk en ce moment même. C'est probablement beaucoup plus poétique chez Flavien Berger, c'est un de mes projets préférés de lui, c'est 4 morceaux, mais ça dure tout de même 30 minutes car il y a 2 titres qui durent 11 et 13 minutes je crois, et c'est vraiment un très joli voyage que je vous conseille de faire. Voilà, mention spéciale au titre Les Véliplanchistes. Et je vous disais tout à l'heure que c'est un peu un artiste plasticien, ça fait la troisième fois que je le dis, et pour appuyer mon propos, je vous conseille d'aller écouter Radio Contretemps, qui est un projet donc hybride, découpé un peu comme un album, sauf qu'en fait c'est des bribes de morceaux sur lesquels il a travaillé et qu'il a pas forcément fini, avec de temps en temps des explications de Flavien Berger qui arrive au micro qui dit alors là le morceau c'était ça, donc parfois ça s'arrête hyper abruptement, parfois il t'explique qu'il a pas trouvé les paroles qu'il voulait, parfois il te parle de comment l'idée est née, etc. Bref, je trouve ça assez chouette comme concept, et c'est une petite sorte de mise à nu du processus créatif que je trouve assez intéressante et qu'on voit pas souvent, donc je vous conseille d'aller écouter ça. C'est pas forcément un truc qu'on réécoute, mais je trouve que l'idée est cool et je trouve ça assez courageux de sortir ça quand t'as deux albums qui ont très bien marché avant. Donc voilà, c'était ma petite chronique sur Flavien Berger.
Et ben moi, si je peux rajouter un morceau,
mais bien sûr.
C'est le single qui s'appelle Arco Iris en feat avec Étienne Jomet, qui est vraiment un excellent morceau aussi. Moi, je crois que c'est l'un de mes morceaux préférés. Voilà, c'est très chouette. Vous verrez, c'est un morceau, c'est pareil, il doit durer 6 minutes.
Excellente recommandation, mon cher Clément, je valide à 100% bien sûr. Je propose qu'on passe au son d'après.
Allez, on continue. Troisième artiste de la semaine, c'est une autrice, compositrice et interprète norvégienne de 41 ans, du nom de Jenny Ashval, je sais pas si je le prononce bien, je vais être honnête. Voilà, Jenny Ashval, on va dire ça. Je suis désolé si je me trompe. C'est une chanteuse que j'ai découvert récemment grâce aux médias Geyser. Je sais pas si je les ai certainement déjà cités ici,
oui,
mais qui en tout cas toutes les semaines ils sortent un petit peu un visuel sur leur Instagram où ils annoncent un peu les sorties de la semaine, et voilà, j'ai toujours un petit œil curieux, et du coup ils mettaient cet album un peu en avant et je me suis dit tiens vas-y, ça m'amène dans d'autres contrées musicales, ça m'intéresse. Ça a été tout à fait le cas en l'occurrence. Alors pour vous parler un petit peu d'elle, du coup elle est norvégienne comme je vous disais, elle a fait ses études musicales en Australie, où du coup elle a chanté dans deux groupes locaux aussi, et elle revient en Norvège je crois en 2006, où elle enregistre deux albums sous le nom Rocket to the Sky, avant de reprendre son nom de naissance. C'était 2006, on est en 2022, elle a sorti depuis près d'une dizaine d'albums, soit seule, soit en collaboration, donc plutôt quand même quelqu'un d'assez productif, et voilà, elle sortait un nouvel album du nom de Classic Object, qui m'a particulièrement plu. Donc je vous propose tout de suite qu'on écoute le morceau qui ouvre l'album. Ça s'appelle Year of Love. Et puis on revient pour parler un petit peu de Jenny Ashval. Contractual reasons I explained.
from the institution and the industrial happiness complex.
C'était Ear of Love de Jenny Acheval.
Écoute, surprenant.
Ouais, c'est... qu'en as-tu pensé ? Ça m'intéresse.
Alors, les lyrics sont vraiment très marrants.
Bah alors, je les ai pas creusés à fond, enfin je les ai parcourus. De ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, elle parle un peu du paradoxe qu'elle a de s'être mariée alors que ça a souvent été quelqu'un plutôt qui était contre
oui,
tout ça.
Elle dit littéralement, j'ai signé un deal avec le patriarcat, ça me tue de rire. En fait, à un moment donné, elle disait des mots hyper compliqués. J'étais là, attends, mais je vais essayer de comprendre ce qu'elle raconte, parce qu'elle dit genre institution, je sais pas quoi, machin, non. Du coup, j'étais là, bah, c'est trop bizarre.
Ouais, ouais, ça paraît pas très léger, quoi, dans niveau parole, ouais, je suis d'accord.
Et comparé à la musique, tu vois. Et du coup, je trouve ça trop marrant. En fait, elle raconte quoi ? Qu'il y a un couple, enfin, un mec a demandé à une meuf d'être mariée, et du coup, ça l'a rappelé qu'elle-même, elle était mariée.
Je crois qu'elle, en fait, elle raconte
gros,
une anecdote.
Le mariage, quoi.
De ce que j'ai perçu un petit peu des quelques interviews que j'ai pu lire, etc., c'est que c'est quelqu'un qui a justement très, a priori, à mon avis, quand même assez féministe, etc., qui a souvent lutté en tout cas contre cette vision très patriarcale de la vie, et qu'il y a quand même du coup le paradoxe de se dire, bah tu vois, finalement j'y suis arrivé moi aussi. Et oui, et elle raconte, je crois, une anecdote où elle est sur scène, et en fait, elle a vu littéralement un homme demander sa meuf en mariage devant elle, c'est pendant son concert, quoi. Et que voilà, ça l'a totalement chamboulé. Et pour en revenir du coup un petit peu même à cet album là en fait, de ce que j'ai pu explorer un peu de sa musique et de lire de ses précédents projets, c'est souvent quelqu'un qui du coup qui prenait un peu des concepts assez forts pour ses albums. Je crois que il y a un album qui s'appelle Blood Beach qui traite vraiment pas mal de, je crois, des règles en fait, des règles des menstruations féminines. Il y a l'album The Practice of Love qui parle vraiment de presque comment faire l'amour, en fait, tu vois. Et elle a l'air d'être assez, tu vois, voilà, d'avoir pris des chemins assez directs, ou des directions plutôt, voilà, des directions assez tranchées pour ses albums.
Et assez là, féministe a priori, oui.
Et exactement, et que là, en fait, toute la période du confinement, etc., lui a fait reprendre pas mal, enfin, tu vois, lui faire se poser des questions, tout simplement, et revenir à quelque chose peut-être aussi d'un peu moins conceptuel et plus directement lié à, voilà, ce qui elle était, elle, son, voilà, sa vie, ce qu'elle traverse, c'est... Et donc, je pense que c'est... Voilà, ces questionnements intérieurs et tout. Et donc, je pense que ce premier morceau qui ouvre l'album, quand même, en fait partie.
Ouais.
Au-delà de l'aspect purement lyrique et du coup de sa vie, moi, j'avoue que ce qui m'a vraiment bien plu, c'est que musicalement, ça m'a surpris, en fait. Je trouve qu'il y a une belle richesse musicale qui se dégage de ce morceau, avec des instruments aussi, bah voilà, tout simplement mixés ensemble, qui m'ont désarçonné gentiment, tu vois. Je suis pas, c'est pas, c'est une pop alternative que je trouve voilà, très agréable à écouter.
Ouais,
j'aime
d'accord.
bien sa voix, comme je disais, tu vois, il y a des instruments, voilà, l'utilisation de l'orgue qui vient insuffler une énergie presque dans cette utilisation. Ça, moi, ça me fait penser presque au travail des Doors, tu vois.
Oui,
moi,
j'ai pensé
voilà.
à ça aussi.
Ouais, de l'orgue et de cette manière un petit peu de le rythmer. Je pense que ça, je trouve ça, en fait, ça donne un charme fou au morceau. Il y a aussi la grosse présence de la basse là qui drive bien le morceau. Il y a ces petites percus là, ou même des rythmiques un peu caribéennes, enfin, tu vois, caribéennes ou reggae là, qui arrivent aussi un peu plus tard dans le morceau. Il y a une progression où je suis toujours à dire, ah tiens, il se passe quelque chose d'autre. Et puis en plus, le morceau vraiment prend l'ampleur, en fait, plus t'avances. Tout simplement, ça m'a emballé, en fait, tu vois. En plus, c'est ça, il y a même des cordes aussi. Enfin, tu vois, vraiment, il y a une sorte de grand mélange. Et du coup, plus généralement, même l'album, en fait, est quand même pas mal comme ça. Il tente des choses sans qu'on soit dans la musique peut-être un peu plus expérimentale, voire électro, en fait, de ce qu'elle faisait avant.
Okay.
C'est quelqu'un qui vient de là, Là, on est sur quelque chose de plus pop, même si tu sens en fait ces vibes-là sur certains morceaux comme Cemetery of Splendor of Freedom. T'as deux morceaux là où tu sens qu'il y a des passages vraiment plus instrumentaux qui montrent plus ce qu'elle a pu faire avant, okay. En tout cas de ce que j'ai pu écouter. Sinon, on est globalement sur une proposition plus évidente, plus accessible, je pense, pour à mon avis rentrer, comme moi en tout cas, dans son univers. Moi, l'album m'a vraiment bien plu, ça m'a donné envie justement d'explorer un peu le reste, qui est plus barré mais aussi très intéressant. Tu ressens aussi une grosse influence Kate Bush. Tu vois qui c'est Kate Bush ?
Oui, tout à fait. Ok. Oui, pourquoi pas.
Elle la cite et je vois ce que dans l'approche vocale, je trouve, je vois très bien ce qu'elle veut dire. Et puis.
Oui, puis même dans un univers un peu.
Un peu éthéré en fait. Tu vois, je trouve que ça donne, c'est ça, un univers assez éthéré à cette pop. J'aime bien en fait, c'est pareil. Je trouve que c'est du coup une sorte de pop un peu moins facile peut-être ou moins grand public, tu vois.
Oui, il y a de ça, oui. C'est
plus original, on va dire.
C'est pas de la pop du coup, mais bon. Après, ça, c'est mon débat personnel en interne avec moi-même sur ce genre musical.
Et bah, du coup, on va la classer dans la
catégorie alternative.
Mais en tout cas, une chouette artiste alternative, du coup. En tout cas, pour ceux que ça a conquis, elle sera à la Gaîté Lyrique le 13 avril. Et je le mentionnais parce que je pense qu'à mon avis, ça doit être. Une artiste assez cool à découvrir en live aussi.
Oui, clairement, oui.
Donc, pour prolonger l'écoute, je vous conseille du coup cet album qui s'appelle Classic Object, au pluriel. Et moi, dans les quelques albums dont j'ai un peu parcouru les tracks, je vous conseille l'album qui précède, du coup, qui s'appelle The Practice of Love, que j'ai cité, et Blood Beach, que je trouve vraiment chouette dans l'approche musicale, simplement. C'est plus tranché. Mais je pense que si
tranché dans quel sens, dans le sens c'est moins accessible,
ouais, c'est plus chelou, quoi. Ouais, c'est un peu plus chelou, un peu plus expérimental, un peu plus électro aussi, mais c'est bon, ça reste, enfin c'est pas, oui, je dis expérimental parfois un peu trop souvent, c'est
non
juste,
mais j'entends. Enfin, rien que dans le morceau qu'on vient d'écouter, ça reste un truc un peu chelou, tu vois.
Voilà, bon, c'est de l'électro.
Enfin, chelou, selon qui écoute, quoi.
Oui, exactement. Parce que franchement, je trouve que c'est quand même, ça reste très doux et très, très facile à appréhender comme morceau.
Tu
voilà.
Sens que c'est un personnage, disons. C'est ça que je voulais dire.
Exactement. Bah, c'est un peu, je crois que c'est ça, tu vois. C'est cet album-là, ce morceau-là m'a introduit à une sorte de personnalité musicale que je trouve intéressante et justement qui sort aussi un petit peu des sentiers battus de ce que je pouvais ramener, de ce que même j'écoute. Plus généralement, donc c'est cool.
Très chouette.
Voilà.
Formidable.
Et bah écoute, je te propose qu'on passe au son d'après.
Et pour cette dernière partie du son d'après, je voudrais vous parler de Awa, une artiste assez impressionnante par son parcours et qui a l'air de ne vouloir en faire qu'à sa tête, honnêtement. Je l'ai découverte très récemment, je pense le mois dernier. Est-ce que tu connais le principe des playlists Track ID de Spotify ?
Non, redis-le-moi, parce que je suis pas sûr.
Alors, c'est des playlists qui sont directement alimentées par des artistes, qui sont souvent des DJ, qui partagent, je sais pas, toutes les semaines, tous les mois, un peu leurs morceaux préférés du moment.
Okay.
J'adore ce genre de playlist, et ça me rappelle un peu un site qui existait dans les années 2010, début des années 2010, je pense, qui s'appelait 22 Tracks. Je sais pas si tu vois, mais le principe était un peu le même. En fait, c'était des playlists qui étaient alimentées par des DJ un peu spécialisés dans chaque genre musical.
D'accord.
Avec 22 morceaux à chaque fois, et à chaque fois qu'il y avait un nouveau morceau qui était ajouté, le dernier de la playlist sautait. Donc du coup, il fallait toujours être au taquet, tu vois, pour aller écouter les nouveautés. Donc j'adorais ce principe. Et donc le principe des playlists Track ID de Spotify, c'est ça. Et c'est un excellent moyen de découvrir du son. Donc petit tips aux utilisateurs et utilisatrices de Spotify, voilà, si jamais. Personnellement, moi je découvre donc Awa comme ça, en écoutant la Track ID de Bambi, qui est une DJ et productrice de Toronto. J'appuie sur ce point parce que des personnes dans cette pièce insistent sur le fait que, soi-disant, je n'aime pas les Canadiens, alors que j'ai juste un souci avec les voix de Drake et de The Weeknd.
C'est pas mal parce que c'est quand même les deux plus grosses pop stars mondiales et qui sont
rien,
canadiennes en l'occurrence.
Ils ont des voix nulles. Bref.
Ces propos n'engagent que toi.
Moi. N'hésitez pas à me hâte et à me hater.
Ah là, voilà.
Voilà, donc Bambi qui est une DJ productrice de Toronto qui a notamment collaboré récemment avec Beam, dont tu parlais à l'épisode 32.
Très bien, j'adore.
Voilà. Et elle a de très bons goûts musicaux, voilà, bien sûr. J'ai liké plusieurs sons de cette playlist, mais parmi eux, il y avait le titre My Love de la rappeuse Awa qui a réussi à me convaincre en une seule écoute. J'étais sûre que j'allais me plaire dans son univers musical et ça n'a pas loupé. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite et ensuite on discute un petit peu de cette rappeuse formidable.
Oh. inside of you. I'm touching her lips and her thighs. Know that she mesmerized. Never met someone like I. Said that she saw me online and I'm all in her mind. Said that she wanna be mine. She ain't wasting no time. She feeling the vibe. 25, I got high. Oh, she won't be my new Nina. She won't be my Maria. Be my new Britney. She won't be my new Christy. Tell me she don't feel love, but her love is my drug. Please don't take it away. Please don't take it away. Take it away. Please don't take it away. Please don't take it away.
Awa, my love, alors Clem, qu'est-ce qu'on en a pensé? Débrief à chaud.
Bah écoute, je vais pas beaucoup te surprendre, j'avoue, malheureusement, mais j'ai aimé, enfin malheureusement.
Malheureusement,
j'ai aimé, non mais malheureusement, oh. Je ne te surprends pas, mais oui, non, c'est totalement ma cam. J'aime bien la prod notamment, en tout cas qui oui. me surprend, ce petit côté tout doux là, tu sais, t'as l'impression que tu vas te coucher presque, tu sais que c'est presque une sorte de petite berceuse, et en même temps j'aime bien du coup par moment le paradoxe où t'as une sorte de grosse basse qui arrive. Et j'aime bien ce décalage entre les deux. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et puis je sais pas, après voilà, toute cette petite vibe afro là qui se dégage et tout. Franchement, j'ai envie d'écouter la suite quoi.
Super. Alors ça me fait plaisir déjà dans un premier temps. En effet, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que la prod c'est quand même l'élément principal de ce morceau. Bien que Awa chante bien et rapote de manière cool et chill, je pense que vraiment c'est la prod qui fait toute la diff. Et ça me fait un peu penser à des producteurs, tu sais, un peu hip-hop expérimental, électronique. Shigeto, je ne sais pas si vous voyez qui est Shigeto, mais si vous voyez qui c'est un batteur et un beatmaker
de
Chicago, il me semble. Peut-être que je dis de la merde, mais en tout cas, des États-Unis, c'est sûr, mais de Chicago, il me semble, que j'avais vu en concert il y a longtemps maintenant. Mais un peu dans ce genre de vibe-là, voilà, un peu dans un espèce de truc un peu chelou, quoi. On produit une musique dont on a l'habitude, mais avec des éléments qui sortent de l'ordinaire.
Ouais, je vois ce que tu veux, oui.
Voilà, et donc du coup là, forcément le petit marimba un peu métallique là, qui fait les 2-3 notes principales.
Ouais, c'est un marimba, j'arrivais pas à situer l'instrument.
J'ai dit marimba, mais je ne suis sûre de rien.
C'est une déduction, oui, c'est ça.
J'imagine, en tout cas ça sonne un peu comme ça. Et comme toi, je trouve que la basse sur le refrain, elle est savamment dosée, il y a des petits effets un peu sci-fi de temps en temps et tout, enfin genre ouais. Vraiment il y a un truc très cool et c'est vraiment l'amour à la première écoute quoi. Il y a assez d'éléments que je connais pour que mon cerveau se dise oh, c'est pas mal, on peut aimer, et assez de choses qui sortent de l'ordinaire pour m'interpeller, ouais. Tu vois. C'est une artiste Awa qui a l'air d'avoir cette foi en elle-même de réussir dans la musique, tu vois. C'est une personne assez croyante, elle cite souvent Allah dans ses posts Instagram et tout, et tu sens qu'elle a cette vision d'elle qui va réussir et qui est son âme est sur cette terre pour faire de la musique à l'instant T, tu vois. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu tort puisque elle fait partie des plus jeunes compositrices de l'Orchestre Philharmonique de New York.
Ah ouais, c'est classe.
Ouais. À l'heure où on enregistre cet épisode, elle a 21 ou 22 ans. Et il y a 10 ans, elle intégrait un programme pour jeunes artistes compositeurs au Lincoln Center, donc un gros centre d'art à New York. Et elle est allée bille en tête en voulant être la meilleure. Ce qu'elle a fait, elle a appris à composer des pièces de musique pour tout un orchestre à 11 ans. Wow. Et de ses 13 à 15 ans, elle a fait ça professionnellement. Et après, bon, elle en a eu marre. Genre, elle fait « Bon bah, je suis la meilleure, c'est bon !» Alors bah, ciao. Ça me saoule. J'ai décidé d'arrêter de faire ça. Donc, elle explique en interview que vraiment, elle était très dans la compétition, sur la composition, etc. qu'on lui a appris à faire. Elle a fait, elle a réussi à chaque fois. Et du coup, après quelques années, elle a dit « Bon, alors, je suis douée, certes, mais c'est un peu ennuyant, en fait, la musique classique. Je trouve que c'est trop linéaire, trop réglementé à écrire. Donc, je vais faire autre chose. » Elle a fait autre chose, elle s'est lancée dans le mannequinat et à 17 ans, elle a sorti son premier morceau qui s'appelle Might Be et qui a été coproduit par Tony Seltzer qui coproduit aussi bien sûr le morceau qu'on vient d'écouter qui est son bras droit dans tous ses projets jusqu'à maintenant. Elle a sorti son premier EP en 2020, il s'appelle The One, My Love en est extrait bien sûr, c'est sur un sous-label de 4AD qui s'appelle Before. Et depuis, elle a signé chez 4AD, le label principal, donc label que vous connaissez probablement grâce à Daughter of the Nationals.
Ok.
Donc, ils sont des trucs plutôt indés, mais ils ont aussi des artistes plus dans la vibe de Awa, notamment Erika Decazier et TK Meizza. j'espère que je prononce correctement, qui sont deux artistes que j'aime beaucoup. Et donc, elle l'a signé là pour un album qui devrait sortir bientôt, peut-être à l'automne 2022, mais rien n'est encore annoncé officiellement. En tout cas, elle a pas mal d'insolence un peu, tu vois, genre j'ai lu quelques interviews d'elle et tout, elle est là vraiment genre, vraiment, moi je suis là pour faire ma musique, mais je m'en bats les couilles du reste. et tu vois vraiment cette vibe qu'elle avait à 15 ans quand elle se dit je vais arrêter de faire la Philharmonie de New York, parce qu'en fait elle se rendait pas du tout compte que c'était un truc énorme, tu vois, elle était juste là,
à 15 ans,
on m'a fait rentrer dans ce truc là,
elle n'a pas capté comment c'est possible,
ouais,
en fait,
mais moi non plus. T'imagines, tu composes pour des orchestres entiers. Et genre, ces pièces, elles ont été jouées genre au Venezuela, en Chine, je sais pas où et tout. Enfin, genre, c'est zinzin, quoi. Et donc, elle a toujours kiffé la musique, toujours été là-dedans et tout. C'est pour ça que vraiment, depuis le début, elle est en mode, je vais être une star, en fait. Je suis là pour... Enfin, même pas une star, en plus, parce qu'il n'y a pas ce côté... Il y a même pas ce côté starification, tu vois, c'est juste
sûr.
Genre
je vais être la meilleure dans mon dans ce que je fais.
Exactement. Pour prolonger l'écoute, du coup, je vous conseille d'aller écouter l'EP The One avec une mention bien sûr spéciale aux productions qui ne sortent pas toutes de l'ordinaire comme celle de My Love, mais franchement qui sont très chouettes. Concernant les lyrics, ça tourne beaucoup autour de ses relations sentimentales et de son amour pour les femmes, ce qui devrait être aussi le thème du prochain album, qui a priori serait très précisément sur le fait de tromper les gens, le fait que la monogamie ça ne marche pas pour elle. Voilà.
D'accord, ok.
Et donc elle a sorti un premier extrait a priori du prochain album qui s'appelle Wake Up, que je vous conseille d'aller écouter aussi. La prod est très chouette, il se passe plein de choses, donc ça c'est cool, c'est les deux reco Awa que j'ai à vous faire. Et la troisième, c'est une autre artiste qui est dans une vibe un peu similaire, qui est une rappeuse écossaise qui s'appelle Clobocop. Et je vous conseille d'aller écouter un EP sorti en 2018 qui s'appelle Lil Red Riding From The Hood, avec une mention spéciale pour le titre Virgo, que j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Ouais, Clobocop, c'est très bien. Je crois que c'est mon pote Grégoire qui m'avait fait découvrir et qui, j'avais bien aimé la vibe de cette meuf-là.
Ouais, je trouve que c'est un peu la même vibe avec des prods peut-être un peu moins travaillés, mais en tout cas dans la même veine, un peu nébuleuse et un peu, on parle de sentiments et on est là. On est un peu émo, en fait. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cet épisode 45, les amis. Il est l'heure. Des petites recos usuels de fin, bien sûr.
Tout à fait. Et du coup, si vous avez aimé les 4 morceaux qu'on vous a diffusés aujourd'hui, vous pouvez les retrouver, comme toutes les semaines, dans la playlist du son d'après qu'on alimente semaine après semaine, de tous ces morceaux qu'on vous ramène.
Navalon,
disponibles sur les plateformes usuelles.
Le streaming, bien sûr.
Voilà, tout à fait. Si il y a des noms, par exemple, genre Jenny Acheval, que j'ai prononcé 15 000 fois, je sais toujours même pas si je le prononce bien. Si vous voulez savoir comment c'est orthographié, vous pouvez retrouver tous les noms et références qu'on évoque dans les notes du podcast. Et du coup, si ce que l'on fait vous a plu, vous savez que vous pouvez toujours nous donner de la force en mettant des petites étoiles sur Apple Music et sur Spotify, un petit commentaire, et puis même, éventuellement, sinon, parlez-en autour de vous, faites des stories Instagram, tout ce qui peut donner un petit peu de visibilité et donner aux gens de nous écouter en plus grand nombre. En tout cas, on vous remercie.
Donner aux gens de nous écouter.
Donner envie aux gens. De nous écouter, c'est mieux si je parle français, c'est mieux pour être compris et pour être du coup partagé. En tout cas, nous on vous remercie de nous suivre vraiment semaine après semaine. On est toujours là, vous aussi, et ça fait vraiment plaisir.
Oui, merci, vous êtes les bestes. Et Clément, qu'est-ce qu'on se dit ?
À la semaine prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.